Pendant une vingtaine d'années, je suis intervenue comme toutes mes collègues psychologues en réanimation et j'intervenais aussi bien au niveau des familles que des enfants que des soignants. Et avec ma collègue Olga Faustini, on s'est réparti le travail et depuis 7 ans, elle intervient uniquement auprès des familles et des enfants et moi j'interviens auprès de l'équipe soignante. Et c'est vrai que depuis 7 ans, je suis étonnée de la possibilité de mettre en place certaines choses que je n'avais jamais pu imaginer avant, sans doute du fait que toute mon énergie est complètement disponible pour l'équipe soignante et que je ne me sens pas coupable de ne pas m'occuper des familles pendant ce temps. Et ma collègue Olga, de la même manière, ne se sent pas coupable de ne pas pouvoir intervenir quand l'équipe est en difficulté et qu'elle-même est auprès d'une famille, puisque je suis là. Donc c'est vraiment, il faut une très bonne alliance entre les deux psys, hein, c'est absolument indispensable. J'accueille tous les nouveaux du service, quelle que soit leur fonction. Les nouvelles infirmières, même les nouvelles stagiaires infirmières, les nouveaux internes, les nouveaux externes, les nouveaux chefs, enfin, les nouveaux médecins qui rentrent dans le service, absolument tout le monde, je les vois au moins 5 minutes. Et pour les internes et les externes, je fais des groupes d'accueil. Ça fait partie du plan d'accueil, c'est obligatoire, je veux dire, ils n'ont pas le choix. Hein. Ils ont des cours sur la ventilation, sur l'hémodynamique, enfin, ils ont des trucs très très précis. Ils font un stage infirmier aussi, les externes suivent pendant une semaine les infirmières, ça c'est vachement, vachement intéressant. Et internes et externes ont un cours avec moi, alors évidemment c'est pas un cours, c'est simplement échanger ensemble. Donc, ce qui me permet de les connaître un peu, qu'eux me repèrent, et de pouvoir éventuellement revenir vers moi quand il y a une difficulté. Et ça, c'est juste la première prise de contact qui ne dure pas longtemps, hein. Enfin, bon, une heure pour les internes, mais les infirmiers, c'est quelquefois un quart d'heure, je les reçois individuellement. Et après, ils peuvent revenir me voir plus facilement. J'ai essayé de mettre en place une heure hebdomadaire, dite heure de pause, P-O-S-E, où on vient se poser, peut-être se reposer, en tout cas déposer un certain nombre de choses. Ce groupe est ouvert à tous, quelle que soit la fonction, il est totalement libre. On peut même entrer, sortir, hein, parce que le rythme de la réanimation ne permet pas forcément de s'asseoir une heure et demie ou deux heures d'affilée. C'est complètement ouvert, c'est en fonction, je pense, des emplois du temps de chacun. Il y a des fidèles qui sont tout le temps là, l'assistante sociale, l'éducatrice de jeunes enfants. Et puis, sinon, ça circule, absolument tout le monde, les aides-soignants, les médecins, les infirmiers peuvent venir. Cette réunion fonctionne depuis 7 ans de façon régulière. Alors, on a beaucoup travaillé pendant cette heure de pause sur les entretiens familiaux, qui sont des entretiens très difficiles, où les médecins annoncent aux familles des nouvelles, souvent extrêmement douloureuses. Et en travaillant sur ces annonces familiales, en particulier en reprenant des situations et en faisant des petits jeux de rôle, où le médecin pouvait jouer le rôle de parent, l'infirmier jouant le rôle du médecin, enfin on tournait un petit peu comme ça. En enseignement, c'est formidable. Et avec les internes, je travaille parfois comme ça, quand ils le souhaitent, hein, puisqu'on a des vieux internes qui sont en 7e ou 8e semestre, qui seront chefs de clinique peut-être le mois prochain, et qui n'ont jamais fait, bien sûr, personnellement d'annonce. Donc pouvoir au moins la jouer une fois. On a commencé à décrypter un certain nombre de fonctionnements, et on s'est aperçu, de façon assez évidente maintenant, et on l'avait pas vu avant, que finalement c'est le temps de parole des parents qui n'existait pas. Les médecins, une fois qu'ils avaient fait leur annonce, étaient absolument épuisés. C'est d'une délicatesse extrême, chaque mot est pesé. Et puis, bon, après, les parents un peu sidérés, l'infirmier participant de façon très, très silencieuse à ces entretiens. Voilà, on a un peu modifié notre façon de faire. On a pris beaucoup plus de temps pour ces entretiens familiaux. L'infirmier pouvant reprendre la parole, passer la parole aux parents, accepter les silences, tout le monde a pu accepter ça. Et maintenant, c'est des entretiens qui sont bien sûr un peu plus longs, mais où les parents ont un temps de parole dédié. Les médecins ont vraiment, vraiment beaucoup travaillé et maintenant, les entretiens sont différents. Au début, les soignants commençaient à me raconter leur cauchemar de réanimation. C'est arrivé quelquefois comme ça. Et puis, au fil des mois et des ans, je me suis aperçue que c'était des cauchemars assez répétitifs, assez identiques, très proches du réel, très proches de ce qu'ils vivaient, mais des vrais cauchemars où la personne se réveille très très mal, parfois en pleurs. Hein, c'est vraiment des cauchemars extrêmement violents. Ce sont des cauchemars traumatiques, sans du tout distanciation, où le rêveur joue le rôle qu'il joue en réanimation. On n'est absolument pas dans le cadre d'une cure analytique, on n'est absolument pas dans la moindre interprétation. Je vais t'en lire un, et c'est un rêve qui explique bien les fantasmes extrêmement archaïques et crus que les bébés nous font vivre. C'est les soignants eux-mêmes qui m'adressent par mail leur cauchemar. Il n'y a pas un mot de moi. Je l'ai appelé ce cauchemar le cauchemar du bébé Panini. On me demande de faire cuire un bébé. Je me trouve devant cet enfant, installé façon Panini, et qui commence à cuire. Je regarde le bébé cuire en constatant combien il est mignon et surtout combien ça me fait de mal de devoir faire ça. Alors ça, c'est sûr qu'on n'a pas tellement envie de rire quand on entend ce cauchemar. Hein, on est vraiment là dans le cru, de Lévi-Strauss. Hein. Et on va faire toute une petite cuisine pour un petit peu réchauffer, cuisiner tout ça, pour que ça soit moins archaïque. Et en fait, la façon de faire, et alors ça m'échappe complètement, c'est qu'ils ont commencé à se raconter leur cauchemar entre eux. Au début, c'était assez secret. Ils venaient me dire, oh là là, j'ai fait un horrible cauchemar, il faut que je te le raconte. Puis après, ils ont commencé à parler un peu plus fort. Puis ils ont commencé à accepter que d'autres viennent. Et puis finalement, c'est arrivé plusieurs fois que chacun se raconte le cauchemar de la nuit et qu'ils en rient. C'est tellement terrible que finalement, il y a une espèce de cauchemar, on peut l'écrire MA2RE à la fin. Donc c'est vraiment un partage émotionnel et petit à petit une élaboration hein, à travers ce travail de copensée. Il y a une interne qui rêvait. Elle est en train de perfuser, pour apprendre, le mannequin de réanimation en caoutchouc. Et puis sur le bras gauche, et puis au moment où elle l'injecte, elle s'aperçoit que c'est un bras vivant, que c'est pas du tout un mannequin de réanimation, mais que c'est un vrai enfant. Et l'horreur se dédouble du fait que les autres n'ont pas compris et perfusent le bras droit comme si c'était un mannequin. Or, ils n'ont pas vu que c'était un enfant vivant. J'ai pensé qu'on était quand même dans un système d'ultra-dépendance des bébés vis-à-vis des soignants, enfin voilà, et que ça rejoint l'ultra-dépendance de la mère face à son nouveau-né. Mmh. Régine Pratt a beaucoup parlé de ça, et que finalement c'est ça qui est vertigineux, parce qu'on peut tout faire avec un bébé, on peut le sauver, mais on peut le tuer aussi. Hein. Mmh. Et donc cette ultra-dépendance provoque forcément des fantasmes qui sont de l'ordre de toute mère. Enfin, donc on peut parler peut-être de réagestante, enfin d'une réanimation qui porte en elle-même ses bébés, dont elle peut décider la vie et la mort. Or, il se trouve que c'est vrai. C'est ce qu'on fait malheureusement dans ces services, surtout à Necker, où vraiment les pathologies sont extrêmement lourdes. Mm-hmm. Et donc, les décisions éthiques sont, j'allais dire, quotidiennes. En tout cas, elles sont pluri-hebdomadaires. Hein. Donc, les soignants sont extrêmement malmenés. Les médecins ont une responsabilité effroyable. Et je travaille énormément avec eux, et de façon soit individuelle, soit en groupe. Mais c'est vraiment un travail conjoint. Ces dilemmes éthiques sont très lourds et il y a beaucoup besoin de paroles autour de ça. Il y a une culture du service du professeur Hubert extrêmement importante au niveau de l'éthique depuis de très nombreuses années. Et cette qualité du travail entraîne aussi une lourdeur psychologique. C'est-à-dire que plus on travaille bien, finalement, plus c'est difficile, hein, plus c'est lourd pour les soignants. Et je pense qu'une façon de les aider, c'est de travailler ensemble, c'est la rencontre pluridisciplinaire, ou partager ensemble des émotions, pouvoir élaborer ensemble, et un travail de co-pensée où chacun apporte à l'autre. Moi, j'ai l'impression, en tant que psy, de recevoir énormément hein, des somaticiens et de leurs réflexions. Et eux, ils sont intéressés aussi par ce qu'ils ressentent, par ce qu'ils éprouvent, et par les mots qu'on peut les aider à mettre dessus. Donc c'est vraiment un travail de co-pensée. Notre travail, à nous les psys, c'est à la fois de respecter les défenses des soignants et à la fois d'aller les interroger aussi, ces défenses. Donc c'est délicat. Cette frange extrêmement fragile entre la vie et la mort en réanimation, par définition, provoque ce genre de fantasme archaïque. Je pense que c'est important d'en parler, d'en faire récit. Sinon, ça reste extrêmement violent. Et parler de la mort et faire récit, ben, fait sens, quoi. Hein, et permet de mettre en place aussi tous les rituels, enfin, qui sont très très enfin voilà, les rituels de mort qui se font dans le service à la demande des parents s'ils le souhaitent. Hein. Bien sûr, tous les rites funéraires, l'enfant peut rester dans le service longtemps. Le taux de décès est entre 12 et 17%, hein. Donc c'est important. Et fantasmatiquement, enfin émotionnellement, il est beaucoup plus important. Hein. Je demandais à une infirmière qui venait d'assister au décès de l'enfant dont elle s'occupait, qui était très émue. Je lui dis oui, c'est difficile, mais bon, il n'y a pas que des décès dans le service. Et je lui demande comme ça, mais à ton avis, il y a combien de pourcentage d'enfants qui décèdent dans le service? C'est une infirmière qui était là depuis assez longtemps, 3-4 ans, ce qui est beaucoup pour une infirmière de réanimation. Mmh. Et tranquillement, elle me dit, donc elle est très émue, mais tranquillement, elle me dit, mais 80%. C'est-à-dire que ça, les chiffres s'inversent. Hein, pour elle, qui venait d'être, à l'instant, là, qui venait d'accompagner un enfant à la mort, eh ben, il y avait 80% d'enfants qui mouraient. J'ai eu du plaisir à travailler dans ce service, et qui nous pousse à aimer ce travail-là. Et je parle aussi de tous les soignants. Sylvain Bissonnier parle de traumatophilie. Hein, il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. D'être au plus près de la vie et de la mort, c'est vertigineux et fascinant. Et je pense que mon vrai plaisir, c'est le travail de copensée transdisciplinaire. C'est formidable pour moi. C'est ce qui nous fait supporter, ce qui me fait supporter la douleur de la mort et des décisions éthiques permanentes qui sont. Ça, c'est très difficile. Mais voilà, il se passe justement de ce fait-là. Il y a aussi en contrepoids un échange formidable entre êtres humains, une intersubjectivité qui est formidable. C'est important aussi de signifier le fait qu'on n'est pas tout seul dans ces équipes en tant que psy. Moi, je travaille beaucoup avec l'équipe de Bernard Golz, pédopsychiatrie. J'échange avec mes collègues. Et surtout, on a un groupe, une association qui s'est créée, qui s'appelle Clepsydre, à l'initiative de Céline Rizignolo, qui depuis maintenant 5 ou 6 ans, regroupe toutes les psychologues de réanimation de Paris et d'Île-de-France. C'est un lieu d'échange, on se réunit tous les 2 mois, on est entre 10 et 20 ou 30 à chaque fois, et on échange sur nos pratiques. C'est extrêmement important de pouvoir entre nous parler de ce vécu tout à fait spécifique de psychologue en réanimation. Je voudrais faire un petit bonus que j'adresse aux équipes soignantes de réanimation. C'est un petit texte qui est l'éditorial du Carnet Psy du mois de novembre 2013. Je remercie Carnet Psy de m'autoriser à le lire. Des lieux qui résistent, des hommes qui s'engagent. Un pays qui s'enfonce dans la déprime, on nous dit ça. On nous le répète à longueur de journaux télévisés et de statistiques certifiées. On nous dit que les jeunes n'ont pas d'espoir. On nous dit qu'il y a un repli identitaire. On nous dit que notre société est égoïste. On nous dit que l'individualisme est la lèpre de notre civilisation. Il existe pourtant des lieux qui échappent, des jeunes qui s'engagent, des emplois qui donnent tout leur sens à une existence. Nous, professionnels de santé, nous les côtoyons tous les jours. Malgré les horaires décalés, malgré les trains en retard, malgré la maladie, malgré la mort, malgré les décisions éthiques, les congés reportés, les gardes exténuantes, ils résistent et s'enthousiasment. Ces femmes et ces hommes ne sacrifient pas leur vie privée à leur métier, mais ils font de leur métier un engagement quotidien. Quelle meilleure résistance que de refuser l'amnésie et l'anesthésie médiatique. Quel plus grand engagement que d'utiliser son énergie pour soigner les autres, tous les autres.